À quelques mois de la COP21, les États doivent affiner leurs mesures pour résorber les conséquences des émissions de carbone. Au moment où la question climatique devient tellement importante, l'évaluation de la qualité de ces mesures devient particulièrement épineuse. Pour enquêter sur la qualité de ces jeux de données statistiques, avec un cofinancement de l'ADEME, Colas Robert prépare sa thèse au sein du CITEPA, le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique, l'organisme de référence pour les mesures de gaz à effet de serre dont dispose l'État français.
Alors moi, ce que j'incarne dans cet organisme, c'est le temps long. C'est le temps de la recherche et c'est la prise de recul. Puisque la temporalité des organismes chargés de réaliser les inventaires, comme le CITEPA, c'est la temporalité annuelle de produire des chiffres officiels les plus justes possibles qui estiment les émissions de gaz à effet de serre chaque année de la France. Et ça, c'est dans un temps relativement court pour compiler les données existantes, voir si elles sont justes ou pas, les corriger éventuellement, et produire des données officielles qui sont ensuite revues par la France et aussi par l'Union européenne. Donc c'est un cadre très normé, très institutionnalisé, et ça s'inscrit en plus dans des cadres européens et internationaux, avec la Convention climat, qui vérifie tout ça de manière très stricte. Et moi, en me posant des questions, même sur 3 ans, qui peut sembler court, ça reste du temps long pour le CITEPA, puisque il n'a pas le temps de prendre du recul et de se permettre de mettre les données de côté qu'il utilise actuellement pour remettre tout à plat et en fait pour se poser les questions méthodologiques d'un point de vue vraiment approfondi, ce temps long est nécessaire.
Et comment vous faites alors pour remettre tout à plat ?
Alors pour remettre tout à plat, je prends la méthode à partir de zéro. Là où les inventaires sont obligés de partir des inventaires existants et de les mettre à jour et éventuellement de les améliorer, moi je peux me permettre de me dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas des données complètement différentes qui pourraient être utilisées en entrée, en quoi les données qui sont actuellement utilisées sont justes, sont pertinentes ou ne le sont pas, en quoi l'incertitude qui est assez peu estimée, parce qu'elle est très difficile à estimer, en quoi cette incertitude peut être mieux quantifiée et peut être expliquée par différents facteurs très précis, en quoi la manière dont la nomenclature a été établie et est en partie imposée par le GIEC pour mesurer les changements d'occupation des terres induit certaines erreurs, peut être améliorée, en quoi la fréquence temporelle d'acquisition de données sur le territoire peut jouer sur les données produites et sur leur pertinence d'un point de vue de suivi des flux de carbone. Et toutes ces questions-là qui sont nécessaires pour prendre du recul et pour produire à la fin une méthodologie qui soit améliorée nécessitent nécessairement de prendre plus de temps et de poser les choses sans partie.
C'est quoi une donnée incertaine ?
Alors, une donnée incertaine, c'est une donnée. Une donnée est forcément incertaine. Même si le mot lui-même, donnée, sous-entend qu'on la prend telle qu'elle, clairement, ça ne doit jamais être le cas. Toute donnée est incertaine, toute donnée est une approximation de la réalité qui est forcément extrêmement complexe et difficile à saisir. Une donnée, c'est le résultat d'un système technique d'acquisition d'informations. Et ce système peut être extrêmement sophistiqué, il peut être extrêmement précis. Ça ne veut pas dire qu'il soit toujours pertinent en fonction des questions qu'on veut se poser. Une donnée peut être produite dans un certain cadre avec certaines idées sous-jacentes et être très pertinente pour répondre aux questions auxquelles la donnée a été prévue. Mais pour répondre à une autre question, parfois une donnée ne suffit pas ou est parfois pas du tout pertinente.
Par exemple ?
Alors par exemple, un système de suivi d'occupation des terres qui est actuellement en grande partie utilisé pour l'inventaire, c'est un système par échantillonnage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas suivre l'ensemble du territoire français, donc on va suivre seulement quelques points, et par la règle statistique de l'extrapolation, on va considérer que ces points sont représentatifs de l'ensemble du territoire et peuvent nous donner une idée de la façon dont il évolue dès lors qu'on va enquêter ces points annuellement et qu'on va voir leur évolution. Cette enquête, qui est très complète, a été réalisée depuis longtemps, elle existe depuis au moins les années 1980, et elle a été prévue à l'origine pour suivre les dynamiques de l'agriculture et pour faire un état des lieux chaque année de l'ensemble des cultures qui étaient présentes en France. Cette enquête, elle est utilisée actuellement pour un cadre beaucoup plus large et qui n'avait pas été prévu à la base, qui est de mesurer l'ensemble de l'évolution du territoire, pas seulement les cultures, mais toutes les terres, et d'en tirer, in fine, une information sur les flux de carbone associés. Clairement, pour tout un tas de raisons, pour des raisons de sémantique, pour des raisons de temporalité, pour des raisons de maillage spatial et d'échantillonnage, cette donnée n'est pas la forcément la plus pertinente pour mesurer et pour estimer du moins les flux de gaz à effet de serre qui sont associés.
Et pourquoi?
Alors, il y a des raisons techniques. D'une part, ce type d'enquête est très fiable pour mesurer des états, c'est-à-dire pour dire, voilà, à partir d'un échantillonnage, on peut mesurer l'état du territoire à un temps T, donc l'année de l'échantillonnage. Puis, si on met à jour cette information, on a l'état à un temps 2. Le problème, c'est le passage du temps 1 au temps 2, où on en déduit des conversions. Et là, clairement, tout un tas d'incertitudes statistiques qui étaient acceptables pour mesurer les états devient beaucoup plus problématique pour mesurer les changements, puisque là où un point va avoir une représentativité acceptable pour représenter, disons, la forêt, puisqu'il va y avoir des centaines de points qui vont représenter la forêt, là où un point va représenter le passage d'une forêt à une surface artificialisée, il va y avoir beaucoup moins de points qui vont être concernés par ce changement, et donc la représentativité de l'état est bonne, mais la représentativité de la dynamique est plus questionnable. Ensuite, il y a aussi des questions de méthodologie de l'enquête elle-même, qui fait que ce sont des personnes qui ne sont pas des professionnels, qui sont des personnes recrutées annuellement pour une mission courte. Ces personnes vont visiter les points. Donc, ce sont les enquêteurs qui n'ont pas de profil ni agronomique forcément, ni de connaissance de la forêt, etc., qui doivent classer les points qu'ils voient dans une certaine nomenclature, et c'est cette information qui va ensuite être extrapolée. Or, on le voit bien en regardant de très près ces données, il y a clairement des erreurs de localisation, des erreurs d'interprétation qui sont imputables à tout un tas de raisons, mais qui, une fois extrapolés, peuvent causer des erreurs qui peuvent être plus ou moins graves à partir du moment où on prend ces données pour argent comptant et qu'on va en plus convertir ces données de surface en flux de gaz à effet de serre.
C'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'avoir des paliers différents de problèmes de vigilance, non seulement au moment de la mesure, puis après dans l'extrapolation, puis après dans le recroisement entre
Voilà.
les différentes données. Vous dites que le but de votre thèse n'est pas tant d'être plus précis que de faire attention à ne pas surestimer déjà ce qu'on a déjà mesuré.
Exactement. En fait, le maître mot de ma thèse, c'est de dire, est-ce que la précision est plus importante que la pertinence? Et moi, je pense pas. Je pense que l'idéal de précision qui prévaut pour tous les systèmes de données, et du moins pour tous les systèmes qui visent à conseiller comment mieux estimer les émissions de gaz à effet de serre dues à ces changements. Donc cet idéal de précision, pour moi, entraîne une surestimation des changements de manière assez mécanique.
Sachant que sur la forêt, on a un parfait exemple d'une catégorie qui n'est pas exactement la même selon les régions du monde dans laquelle.
Absolument. La forêt fait partie de ces mots extrêmement vagues qui définissent une réalité différente selon la personne qui exprime ce mot.
Ce qui rend donc les données produites de par le globe pas forcément facile à
Voilà,
couper.
c'est exactement pour ça que les accords de Marrakech ont voulu fixer des seuils quantitatifs techniques assez précis pour dire, voilà, on définit une forêt à partir de un demi-hectare de surface et pas en deçà. On définit une forêt à partir d'un taux de couvert de tant de pourcents. Mais malgré des taux qui peuvent être quantitatifs, qui peuvent être extrêmement bien détaillés, extrêmement précis, on se retrouve toujours avec des estimations nationales qui sont différentes. Et c'est ce qui fait que la FAO, qui établit régulièrement, à peu près tous les 5 ans, un état global des forêts, des surfaces forestières du monde, avait dit que le taux de déforestation mondiale était plus faible dans les années récentes par rapport aux années 80. Ce que des études plus récentes tendent à infirmer, puisque les chiffres de la FAO reposaient en partie sur des données nationales, et ces données nationales sont extrêmement hétérogènes, notamment au niveau de leur nomenclature et de la définition qu'elles font de la forêt. Et donc on a des questions entre les pays méditerranéens qui ont des maquis, les pays tropicaux qui ont extrêmement développé leurs plantations à la place de forêts. On se retrouve face à des espaces qui sont incertains et peuvent être définis par un pays comme de la forêt, par un autre pays comme de la culture.
C'est vertigineux, parce que si effectivement on a des données que l'on croit robustes qui, l'étude suivante, sont révélées finalement relatives.
Alors, en fait, toute donnée se considère comme robuste parce qu'elle répond à une question, elle a ses propres définitions. Le problème, c'est si on utilise ces données avec une autre idée en tête, que si on utilise une donnée qui définit la forêt comme ça, alors que nous, on définit la forêt autrement, évidemment, ça va poser problème. Ça pose aussi problème dès lors que on va mélanger ou qu'on va cumuler des données qui ont été construites différemment, qui définissent les espaces différemment, qui, du coup, une fois cumulées, multiplient leurs incertitudes entre elles et produisent des choses qui ne sont pas fiables.
Alors, ça veut dire qu'à l'arrivée, vous allez préconiser une prudence extrême qui fera que les données ne sont que très relativement significatives ou...
Alors, moi, ce que je compte préconiser, c'est en effet de bien poser noir sur blanc quels sont les facteurs d'incertitude qui n'étaient pas forcément toujours bien connus ou bien identifiés et qui entraînent des erreurs ou des surestimations ou des sous-estimations. Mais c'est aussi mon objectif de préconiser une utilisation des données qui soit conjointe, c'est-à-dire de pas seulement se reposer sur une seule source pour laquelle on aurait une confiance extrême, mais de reposer les estimations sur diverses sources en tirant parti des qualités et des défauts de chacune des données d'un point de vue de la question qui nous intéresse, en l'occurrence d'un point de vue du carbone, mais ce serait la même chose pour les données qui servent actuellement aux politiques pour essayer de diminuer l'étalement urbain, par exemple. Là aussi, la question des données sources pour mesurer d'abord quel est l'étalement actuel pour savoir comment le diminuer se pose.
Sur ces forêts qui seraient des puits de carbone, il y a aussi des différences d'interprétation précisément entre ceux qui en font des réserves, presque un droit à polluer par ailleurs, et ceux qui...
Alors, en fait, la question des puits, la question de la forêt, c'est un des enjeux de difficulté majeure des négociations dans les COP. C'est un des points d'accroche souvent qui reste avec la dimension pays, développement et de responsabilité différenciée. Il y a aussi la question de la prise en compte des puits. Pour beaucoup d'ONG, c'est une faille, en fait, des systèmes de comptabilisation des gaz à effet de serre, puisque on pourrait considérer que seule la réduction des émissions de gaz à effet de serre par l'industrie, par l'agriculture, par le transport compte, et que la prise en compte du fait qu'il y ait des forêts qui augmentent, par exemple, n'est pas juste. Beaucoup d'ONG critiquent le fait qu'on puisse prendre en compte le puits de carbone que représente le territoire. Or, c'est une question délicate, donc, qui divise beaucoup de pays et qui a expliqué qu'on a des règles extrêmement compliquées aujourd'hui dans le protocole de Kyoto de prise en compte de ces puits et qui, en fait, découlent des positions de certains pays et du fait que certains pays ont une forêt qui augmente, du fait que certains pays ont une forêt qui stagne, certains pays ont très peu de forêt, etc. Et tous veulent compter sur ces mécanismes qu'on appelle de flexibilité, c'est-à-dire de dire, bon, on peut prendre en partie le fait qu'on ait une forêt, qu'on ait des puits, que cette forêt augmente.
On veut le faire valoir comme compensation.
On veut le faire valoir comme compensation. Alors aujourd'hui, il y a des règles très complexes qui permettent de compenser seulement une partie des émissions avec une partie du puits. Et il y a aussi une énorme question de prise en compte de ce puits qui se pose depuis Kyoto, qui est de savoir est-ce qu'on prend le fait qu'il y a un puits ou est-ce qu'on prend en fait en compte le fait que ce puits, il évolue à la hausse ou à la baisse selon la tendance qu'on va projeter. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle les questions de brut net ou de net net. C'est des questions extrêmement techniques, mais qui en fait... sont très importantes dans les débats, dans les négociations des COP et qui vont être importantes dans la question de la COP21, puisque derrière, il y a l'idée de, voilà, est-ce qu'on peut compenser une partie de ces émissions par le puits ? D'un point de vue scientifique, c'est la réalité. C'est-à-dire que, oui, une partie des émissions sont en quelque sorte compensées par le puits, puisque les forêts absorbent des gaz, du carbone qui est en partie émis par les activités. Donc d'un point de vue purement scientifique, la question ne se pose pas. Oui, en effet, il y a des puits, et oui, en effet, il y a des sources, et voilà, il y a un jeu entre les deux. Mais d'un point de vue politique, d'un point de vue même éthique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut réellement mettre sur un même niveau la présence de végétation sur son territoire et le fait que de l'autre côté on a des activités extrêmement émettrices, est-ce que c'est logique ?
Pour terminer, on pourrait commenter les enjeux de cette COP21. Le CITEPA est particulièrement sollicité pour justement donner de la donnée à cette occasion.
Alors, les enjeux de la COP21, ils sont extrêmement nombreux. Le premier enjeu, c'est d'éviter un Copenhague bis, c'est-à-dire un échec des négociations. Le but, c'est de sortir du système de Kyoto où les États développés, dits de l'annexe 1, s'engagent de manière stricte
à
réduire.
C'est quoi les États développés de l'annexe 1 ? C'est-à-dire c'est certains pays.
Oui.
Qui se donnent des règles spécifiques à leur niveau de développement ?
Tout à fait. Alors jusqu'ici, actuellement, le protocole de Kyoto sépare les pays développés dits annexe 1 et les pays en développement ou non développés dits hors annexe 1 pour prendre en compte le fait que ces pays annexe 1 ont une responsabilité historique en termes d'émissions de gaz à effet de serre et Kyoto est dans une logique top-down, c'est-à-dire que ce sont les instances internationales, en l'occurrence la Convention cadre des changements climatiques de l'ONU, qui imposent à l'ensemble de ces parties de réduire leurs émissions. Et pour l'après-Kyoto, on se dirige vers une remise à plat de ce système et de ne plus considérer d'un côté les pays développés et de l'autre côté les pays en développement, pour prendre en compte la réalité actuelle qui est que la Chine et l'Inde notamment sont devenus des émetteurs extrêmement important et que l'Europe, par exemple, ne représente plus qu'une très faible part des émissions totales. Et donc, on se dirige vers un système plus bottom-up où chaque partie décide un peu plus souverainement des réductions qu'il compte faire et de ses engagements qui ne sont plus imposés par le haut mais qui sont proposés par chaque partie.
Et les chances de succès sont elles-mêmes modélisées ?
Alors, les chances de succès, c'est difficile de s'exprimer là-dessus. Il y a énormément d'enjeux diplomatiques avant tout. L'enjeu scientifique, il est posé, il est là, il est certain. Le GIEC a mis à jour son rapport encore récemment, qui réduit encore l'incertitude sur la cause anthropique des émissions de gaz à effet de serre. Donc, la question, elle ne va pas se poser en termes scientifique, mais elle va vraiment se poser en termes diplomatiques, puisque aujourd'hui, les responsables actuels des émissions de gaz à effet de serre sont en grande partie les pays émergents et les États-Unis. Et donc, sont clairement des questions diplomatiques, des questions d'alliance et des questions de stratégie entre groupes de pays qui vont se poser pour que les pays arrivent à faire ce qui est prévu de faire, qui est de limiter les émissions à un niveau qui empêche de dépasser le seuil de 2 degrés de réchauffement. Sachant que ce seuil de 2 degrés de réchauffement, il a été décidé par les politiques, puisque le GIEC ne peut pas proposer un seuil aussi fixe et aussi simple que ça. Le GIEC propose des échelles, des fourchettes de seuil. Il dit voilà, selon tel scénario, avec tant de pourcents de probabilité, selon qu'il y ait tant d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde, il y aura tant de chances que la température augmente de tant de degrés ou de tant de degrés. Les politiques ne peuvent pas s'en tenir à ça, elles ont besoin d'un chiffre simple, et c'est pour ça que le chiffre de 2 degrés a été retenu. Et c'est l'objectif de la COP21 à Paris, de parvenir à un accord global, donc sans séparer pays développés et pays non développés, donc un accord global qui soit compatible avec l'objectif des 2 degrés.